la pression pour moi lisse. On fait les choses avec précision, toujours inventif pour faire évoluer le son. On aime voir toutes les mains en l'air, l'énergie qui remplit l'atmosphère. Ça part en live, jamais ça dégénère. On dépose sur la route, quelque part sur la terre. Quand on lisse, quand on fasse, on se retrouve sur scène.
Quoi qu'ils disent, la vibe c'est là.
Sur la piste, les sols voyés, les gars se déchaînent.
En temps universel. Et 6 heures à Paris, une nouvelle demi-heure d'actualité sur RFI avec vous, Fabrice Legrier, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à tous. À la une, ce constat du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, la violence des colons israéliens ne fait qu'empirer en Cisjordanie occupée. Violence illustrée par plusieurs morts et des annexions de territoires qui se multiplient. Illustration dans un instant avec le témoignage d'un agriculteur palestinien qui a été chassé de ses terres. Une nouvelle nuit de frappes américaines au Moyen-Orient, plusieurs sites stratégiques ont été visés en Iran. Au lendemain déjà d'une attaque menée par les États-Unis sur des groupes pro-iraniens localisés en Irak, attaque menée conjointement avec l'Arabie Saoudite et une temporalité qui interroge du côté de Bagdad car une visite officielle du premier ministre irakien est annoncée à Riyad aujourd'hui. Des incendies toujours actifs en Europe, mais de vrais signes d'amélioration. En Espagne, des milliers d'évacués ont pu rentrer chez eux. En France, le plus gros foyer toujours actif en Gironde n'a pas progressé pour la troisième nuit consécutive. Une nouvelle réunion sur les conséquences économiques de ces feux est programmée ce matin. Et au Mali, des crimes de guerre dénoncés par Amnesty International après les exécutions de soldats maliens en juillet par les djihadistes du JNIM et les indépendantistes du FLA, alors que ces hommes avaient déposé leurs armes. La violence ne fait donc qu'empirer en Cisjordanie occupée. Selon l'ONU, dans un communiqué publié hier, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle les États à agir pour mettre fin à l'occupation israélienne. 2 ans après l'avis de la Cour internationale de justice, déclarant illégale cette occupation, la violence des colons et l'annexion de territoires n'ont cessé de s'aggraver. Rien que depuis jeudi dernier, au moins 8 Palestiniens ont été tués. Des colons qui agissent souvent de concert avec l'armée israélienne et qui multiplient donc les attaques contre les communautés villageoises. Illustration avec l'histoire de Mahmoud Toubassi, un agriculteur palestinien chassé de chez lui la semaine dernière après avoir été longtemps harcelé.
Les colons nous ont assiégés pendant 3 semaines en occupant une de nos maisons en contrebas sur la route qui mène au village. On est resté sans nourriture. Même les services de l'autorité palestinienne n'ont rien pu faire pour nous apporter à manger. Finalement, ils nous ont coupé l'électricité. Sans nourriture, sans roseaux, qu'est-ce qu'on pouvait faire? À la fin, deux colons, plus âgés que ceux qui nous harcelaient tous les jours, sont venus nous voir. Ils étaient armés. Ils nous ont dit, vous avez une heure pour partir. Soit vous sortez d'ici, soit vous mourrez dans la maison. Je demande à la communauté internationale de m'aider à faire sortir ces colons et à retrouver mes terres et ma maison. Je ne veux rien de plus.
Témoignage recueilli par Abla Junaidi. Environ 3 millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie occupée, aux côtés de plus de 500 000 Israéliens installés illégalement au regard du droit international. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes en Iran cette nuit à Téhéran. Les médias font état de plusieurs explosions visant des infrastructures militaires et des capacités maritimes dans deux provinces du pays, notamment sur l'île de Kesh, site stratégique pour le pétrole iranien. Nous allons frapper très fort, avait prévenu Donald Trump. Nouvelle salve de bombardements qui survient au lendemain des frappes de l'armée américaine contre des groupes pro-iraniens en Irak et qui ont fait au moins 20 morts. Et pour la première fois, l'Arabie Saoudite participait à ces opérations aux côtés de Washington, ce qui soulève de nombreuses questions côté irakien, notamment sur la temporalité choisie la veille d'une visite officielle annoncée à Riyad du premier ministre irakien Ali Al-Zaidi. Marie-Charlotte Roupy.
Lors d'une réunion d'urgence avec le premier ministre Ali Al-Zaidi, le cadre de coordination, le groupe chiite majoritaire au parlement irakien, s'est étonné de ce calendrier. Pourquoi attaquer alors que le gouvernement, selon le communiqué diffusé, adopte une politique étrangère équilibrée de coopération régionale? Ahmad Al-Sharifi, expert irakien en sécurité et stratégie.
L'Arabie Saoudite a riposté après une période d'attente et d'observation suite à toute une série de frappes venues d'Irak, mais elle a estimé le gouvernement irakien et ses institutions trop faibles pour contrôler le terrain.
Riyad avait prévenu qu'elle pourrait riposter si les attaques continuaient. En frappant la veille de la visite prévue d'Ali Al-Zaidi en Arabie Saoudite, elle a donc voulu mettre sous pression les factions armées irakiennes et le gouvernement. L'Irak espérait développer de nouveaux partenariats qui lui auraient permis à l'avenir d'être moins dépendant du sort de l'Iran.
Selon mon analyse, cette visite allait ouvrir un dossier important, resté bloqué depuis longtemps, à savoir le dossier de l'exportation du pétrole de Zubayr via un pipeline vers le port de Yanbu, contournant le détroit d'Ormuz pour atteindre la mer Rouge.
Cette attaque saoudienne marque une première grande difficulté pour le jeune gouvernement d'Ali Al-Zaidi. Vu comme un échec par de nombreux acteurs, il risque de perdre une partie de la confiance de ses alliés locaux et internationaux. Marie-Charlotte Roupy, Erbil RFI.
Sur le front des incendies en Europe à présent, des lueurs d'espoir après des signes d'amélioration. En Espagne, comme en France ou dans le sud-ouest en Gironde, le gigantesque brasier est toujours très actif, mais n'a pas progressé pour la troisième journée consécutive. Une accalmie qui, si elle se confirme, permet d'envisager un retour à une vie plus normale selon la préfecture, d'autant que cette journée s'annonce plus fraîche. Le bilan est toujours de 42 000 hectares réduits en cendres. C'est le plus gros feu de forêt dans le pays depuis 1949. Des incendies qui touchent aussi les Landes plus au sud ou encore le Var et qui ont repris dans la forêt de Fontainebleau près de Paris. Les pompiers sont parvenus à les fixer. Des brasiers aux conséquences désastreuses à plusieurs points de vue. Économiques notamment. En Gironde, au moins 13 000 entreprises ont été mises à l'arrêt en l'espace d'une semaine. Une nouvelle réunion est prévue ce matin au ministère de l'économie car les situations sont très diverses et demandent à la fois des moyens financiers mais aussi un encadrement légal. Aurélien de Vernois.
Des entreprises dont les locaux ont brûlé, d'autres dont les salariés ont été évacués depuis maintenant près d'une semaine, et d'autres encore où les employés ne peuvent se rendre sur leur lieu de travail pour cause de routes coupées par les autorités. La situation de la région bordelaise est éminemment complexe et le gouvernement veut montrer qu'il ne laisse personne sur le bord de la route. Les demandes de chômage partiel vont être traitées en priorité, a promis le ministère du Travail, et les banques et assurances ont été appelées à mettre en place des dispositifs d'urgence. Mais les organisations patronales appellent déjà des aides exceptionnelles, notamment pour le secteur du tourisme, particulièrement sinistré, ainsi qu'à beaucoup de souplesse. Chez les entrepreneurs, Confédération des petites et moyennes entreprises, on cite ainsi l'exemple d'une société de pompes funèbres chez qui les corps s'entassent, faute d'autorisation de circulation, ou plus prosaïquement, des contrats de saisonniers ne pouvant être rompus alors que leur lieu de travail est parti en fumée. L'addition pourrait donc rapidement s'alourdir, d'où cette autre initiative du gouvernement, créer une filière des industriels fabricants de drones, par exemple, pouvant participer à la lutte contre les incendies. Objectif, une meilleure prévention des sinistres et un allègement des futures factures.
Aurélien de Vernois, en Espagne, enfin une bonne nouvelle. Les habitants de toutes les localités qui avaient été évacuées dans la région de Madrid ont pu regagner leur domicile, même si des milliers de pompiers affrontent toujours le brasier. En Grèce, deux soldats du feu sont morts en luttant contre un incendie en Crète. Des feux au Canada également, ou encore en Turquie, avec 90 foyers recensés hier à travers le pays. Au Mali, Amnesty International dénonce des crimes de guerre après les exécutions de soldats maliens hors de combat, comme annoncé sur RFI ces derniers jours. Le 18 juillet dernier, lors d'une embuscade tendue à un convoi de l'armée malienne à Tabrit-Chat dans le nord du pays, au moins une cinquantaine de soldats avaient été tués par les djihadistes du Jnim liés à Al-Qaïda et par les indépendantistes du FLA. Au moins 19 d'entre eux ont été exécutés alors qu'ils s'étaient rendus et qu'ils avaient déposé les armes. Le fils d'Iyad Agali, le chef du Jnim, est notamment reconnaissable sur certaines images diffusées par les djihadistes, images qui ont été analysées par l'ONG de défense des droits humains et les conclusions sont accablantes, faisant donc état de crimes de guerre. Ousmane Diallo est chercheur sur le Sahel au bureau d'Amnesty International de Dakar.
Nous avons analysé 12 vidéos collectées sur des comptes Telegram associés à Africa Corps et à Wagner, mais aussi sur des comptes X. Et ces vidéos montrent des scènes où des soldats maliens sont faits prisonniers après l'embuscade de Tabrichat. Certains étaient non seulement maltraités, subissant des coups, mais 19 soldats au moins ont été exécutés. Ces soldats étaient hors de combat, ils n'avaient pas d'armes avec eux. Dans certaines de ces scènes, on peut voir ces soldats couchés à terre, les mains derrière le dos, et des combattants armés leur tirer dessus. Nous demandons non seulement au Front pour la libération de l'Azawad, mais aussi au groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans qui ont revendiqué l'embuscade de Tabrichat de sanctionner les responsables de ces crimes de guerre et de respecter les principes de droit international humanitaire. Et cet appel-là, nous le lançons non seulement à ces deux groupes, mais aussi à tous les acteurs belligérants dans le conflit armé non international qui affecte le Mali depuis plusieurs années.
Des propos recueillis par David Baché. Le bilan du puissant séisme qui a secoué le sud-ouest du Japon mardi s'est encore alourdi. Il fait désormais état d'au moins 28 morts. Des centaines de secouristes s'affairent toujours à fouiller les décombres à la recherche d'éventuels survivants. Volodymyr Zelensky avait prévenu hier soir d'une forte probabilité de nouvelles frappes russes sur l'Ukraine. Cela s'est vérifié cette nuit avec au moins 8 morts au total. De puissantes explosions ont notamment secoué Kiev, mais aussi les alentours de Kryvyi Rih au sud-est de la capitale, la ville natale du président ukrainien, ou encore à Poltava dans l'est. Et puis en France, la chroniqueuse pro-russe Xenia Fedorova s'est vue remettre un arrêté ministériel d'expulsion hier. Éditorialiste, ancienne directrice de Russia Today France, fermée en 2023 à la suite des sanctions européennes adoptées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle est très présente sur les plateaux des médias qui appartiennent à Vincent Bolloré. Il lui est reproché d'être un relais des campagnes de désinformation pilotées par les autorités russes pour déstabiliser l'ordre public. Xenia Fedorova avait déjà été sanctionnée à deux reprises par l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel en France. Une probable expulsion qui fait beaucoup réagir, à commencer par son avocat. Les explications de Jeanne Danglejean.
Quand il a appris l'arrêté d'expulsion de Xenia Fedorova, maître Emmanuel Pivnica a été très étonné. Pour lui, cet arrêté est contraire à la liberté d'expression.
Elle exprime des opinions qui peuvent déplaire. On doit permettre d'exposer non seulement des idées qui sont celles de tout le monde, mais aussi celles qui choquent, qui heurtent, qui inquiètent.
L'avocat estime que sa cliente n'est pas une propagandiste et forme donc un recours contre l'arrêté d'expulsion.
L'idée, c'est d'obtenir l'annulation, ou en tout cas la suspension de la décision.
Les employeurs de Xenia Fedorova, les groupes Canal+ et Lagardère dénoncent eux aussi une atteinte grave à la liberté d'expression et au pluralisme des opinions. Mais pour Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières, Xenia Fedorova n'est pas une journaliste.
C'est une mesure salutaire pour notre espace informationnel, puisque depuis des mois, des années même, en prime time, nous avions droit à une ingérence à travers cette personne qui répète peu ou prou les éléments de langage du Kremlin.
Xenia Fedorova avait notamment tenu des propos disant que la guerre en Ukraine était un conflit local et que c'était l'Occident qui avait décidé de le prolonger.
Jeanne Danglejean. Au Chili, enfin, une femme annoncée disparue vient de faire sa réapparition. Bernarda Vera était considérée comme l'une des quelques 1500 victimes de disparition forcée de la dictature d'Augusto Pinochet. 50 ans plus tard, elle a été retrouvée vivante en Argentine. Un test ADN vient tout juste de confirmer son identité. Et désormais, des parlementaires chiliens réclament des comptes. François-Damien Bourgerie.
1973, Bernarda Vera a 27 ans, mariée, une fille handicapée de 5 ans. Elle milite au sein de la gauche révolutionnaire. Un mois après le coup d'État d'Augusto Pinochet, elle est arrêtée par les militaires et disparaît. Un rapport établira qu'elle a été tuée avec 15 autres personnes. En réalité, Bernarda Vera est parvenue à s'échapper en Argentine. Elle y refait sa vie par s'installer en Suède, dont elle obtient la nationalité, pour finalement rentrer en Argentine. Cela faisait des années qu'il y avait des doutes concernant sa mort, jusqu'à ce qu'une équipe de télévision retrouve sa trace. C'était en septembre dernier, et qu'un test ADN confirme son identité. Alors aujourd'hui, la droite chilienne réclame des comptes. honte. L'Union démocrate indépendante demande la destitution des pensions versées à la famille de Bernard Davera au titre de la loi de réparation. Même si en l'état, rien ne permet d'affirmer que ses proches la savaient en vie. Le Parti républicain, la formation du président Cast, évoque lui la création d'une commission d'enquête pour déterminer de possibles responsabilités politiques.
Explication signée François-Damien Bourgerie. C'est la fin de ce journal sur RFI. 6h13 à Paris, 4h13 en temps universel. Et à suivre sur la radio du monde, nous serons au Royaume-Uni où des millionnaires viennent d'adresser une lettre ouverte au nouveau Premier ministre fraîchement nommé Andy Burnham. Ces derniers veulent contribuer à lutter contre les inégalités sociales et pour cela, ils veulent payer davantage d'impôts. Explication à venir avec Emeline Vin. La culture ensuite et l'invité d'Elisabeth Le Quiré ce matin, l'historienne Sarah Fila Bakabadio. Elle vient de sortir un nouveau livre, Être une femme noire en France, c'est son titre. Tout est parti de la question de l'une de ses étudiantes. Comment faites-vous en tant que femme noire ? Enquête, récit de vie et réflexion personnelle autour de la couleur de peau. Enfin, le Conseil Santé se penche ce matin sur un sujet tabou, souvent honteux et qui pourtant nous concerne tous, les pathologies de la sphère anorectale. Laurence Garcia et son invité nous en parleront. Prenons la direction de l'Espagne pour commencer. Il est surnommé la plage de Madrid, le réservoir de San Juan. Plus de 14 kilomètres de rivage est l'un des principaux centres de loisirs et de nature de la grande couronne madrilène, ou du moins il l'était. Car 6 jours après l'immense incendie débuté près de San Martín de Valdeglías, il ne reste qu'un décor apocalyptique. Le feu a tout emporté. Il ne reste que des cendres noircies au sol et des embarcadères réduits à des squelettes métalliques. Bien plus qu'une base nautique, les flammes ont ravagé tout un symbole de la région. Le reste, c'est Alice Froussard, notre envoyée spéciale en Espagne, qui raconte.
On a essayé de sauver ce qu'on pouvait avant de comprendre que le feu était aussi haut qu'un immeuble. Il y avait tant de flammes, personne ne pouvait rien maîtriser.
Lorsqu'il parle de l'incendie, Daniel, le fils du propriétaire du club nautique, a encore la voix tremblante. De sa deuxième maison, dit-il, il ne reste rien. Les ateliers de réparation des bateaux, le café, brûlés. Tout comme la salle de réception, la cuisine, la terrasse, les voitures. 500 000 euros et plus partis en fumée. Tous nos souvenirs qui s'envole, marmonne son oncle Antonio.
Tout le local a brûlé, le club entier et aussi là-bas ce ponton. Il y en avait un comme celui-là juste à côté, mais il a été englouti par les flammes. Il a coulé. Les 51 bateaux avec. Tout ça, c'est une ruine totale.
Plus loin, sur le réservoir de Saint-Juan, une rangée de kayak a fondu. Partout, il y a cette odeur.
Love. Ramenez-moi à cette station, shérif. Il suffit de couper le courant.
Mais vous n'y pensez pas, docteur. On ne coupe pas une telle courbe démographique. C'est le plus fort taux d'audience de toute l'histoire de la radio.
Ne soyez pas si égocentrique.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Débrancher la radio? Oh non de Dieu, il a perdu la tête.
Mets pas la ligne niveau.
Salem Maloya.
Mets pas la dernier niveau.
L'univers est à la fois incroyablement complexe et merveilleusement simple. Il abrite toutes sortes de créations, tout en courant vers une fin inévitable. Dans ce maelstrom en perpétuelle expansion, s'entremêlent des millions de galaxies, des milliards